Bienvenue sur ce site de podcast, une psychanalyse à fleur d'inconscient. Pour qui s'intéresse à cette question, il n'est certes pas facile de savoir ce qui peut bien différencier un psychiatre d'un psychologue ou d'un psychanalyste, car ces trois praticiens ont au moins en commun le fait qu'ils s'occupent tous les trois de la souffrance psychique, comme en témoigne la racine étymologique commune de leur dénomination. La psyché, c'est l'esprit, l'âme, et le psyché, c'est le souffle, la respiration, la force vitale. Comment donc pourrions-nous définir les trois fonctions respectives de ces trois praticiens qui viennent au secours des souffrances psychiques? Dans une première approche, peut-être pourrions-nous dire que tous trois sont des psychothérapeutes, mais que les moyens utilisés et les buts recherchés ne sont pas les mêmes. Et déjà, nous faisons apparaître ce terme de guérison et de suggestion qui vont être pour nous deux éléments de différenciation décisifs. En effet, le psychiatre vous écoutera et vous parlera, mais ce sera de surcroît, car c'est un médecin. Il vous donnera quelques paroles d'encouragement, il vous écoutera, mais il vous prescrira également des médicaments. C'est avant tout sur eux qu'ils comptent pour vous guérir. Le psychologue ou psychothérapeute vous écoutera et vous parlera. C'est en effet par la parole qu'il espère vous guérir de vos symptômes. Mais vous serez avec lui en face à face, c'est-à-dire que vous vous parlerez de vous à lui et de lui à vous, et peut-être sera-t-il ainsi sollicité de vous répondre quelquefois du tac au tac. Le psychanalyste vous écoutera surtout et par ses interprétations fort rares vous permettra de vous guérir vous-même. Vous êtes allongé sur un divan et le psychanalyste se trouve derrière vous pour n'avoir à prêter attention qu'à vos paroles et également pour se dérober à votre regard, pour mieux s'effacer devant vous. Mais cette première approche est loin d'être suffisante, et c'est là que ce terme de suggestion est très utile, puisque tous trois n'en font pas du tout le même usage. Ce terme, on peut, je pense, le définir comme le fait d'influencer quelqu'un, de lui imposer éventuellement une image, une pensée, une conduite. Mais si on passe du nom au verbe, on peut choisir soit le verbe « suggestionner » qui existe en effet, soit le verbe « suggérer ». La césure entre ces deux verbes, « suggestionner » et « suggérer », permet d'établir une coupure entre la psychanalyse et les autres formes de thérapie psychique. La psychanalyse ne suggestionne pas, elle suggère par ses interprétations, elle susurre, comme dit Lacan, des signifiants qui ont le pouvoir de guérir la névrose, voire la perversion. Ces faits liés à ces deux termes, guérison, suggestion, on peut les retrouver dans le texte freudien. Ce qui différencie la psychanalyse des autres formes de psychothérapie, c'est en effet un double renoncement. Tout d'abord, celui qui concerne le plus court chemin pour arriver à la guérison, au profit de l'élucidation des mécanismes en jeu. D'autre part, le renoncement à la suggestion, ou tout au moins à son utilisation, mise à chaque fois en suspens, déboutée par le déchiffrage de ce que traduit à chaque étape de l'analyse l'amour de transfert, à savoir une manifestation du désir de l'analyste dans son lien au désir du psychanalyste. Par le biais du transfert dans l'analyse, si la guérison des symptômes peut être obtenue, c'est en retrouvant leurs sources infantiles. Pour dissoudre les symptômes, explique Freud, il faut remonter à leurs origines, réveiller le conflit qui leur a donné naissance et orienter ce conflit vers une autre solution en mettant en œuvre des facteurs qui, à l'époque où sont nés les symptômes, n'étaient pas encore à la disposition du malade. C'est ainsi que pour Freud, la psychanalyse, parmi toutes ses méthodes, marque des points. Dans un autre de ses textes de 1923, il souligne en effet que si d'après un vieux dicton médical, une thérapeutique idéale est celle qui agit rapidement, avec certitude, et n'est pas désagréable pour le malade, la méthode de Bernheim, la suggestion, remplissait au moins deux de ces conditions. Elle pouvait être appliquée rapidement, beaucoup plus rapidement que la méthode analytique, sans imposer au malade la moindre fatigue, sans lui causer aucun trouble. Cependant, elle a un inconvénient majeur. Il souligne en effet qu'on apprenait au bout de quelque temps la récidive de la maladie ou son remplacement par une autre. Freud précise encore qu'elle a pour champ d'action avant tout les deux névroses de transfert, hystérie et névrose obsessionnelle, dans lesquelles elle a contribué à mettre à jour la structure interne et les mécanismes à l'œuvre, sans compter toutes sortes de phobies, les inhibitions, les anomalies caractérielles, les perversions sexuelles et les difficultés de la vie amoureuse. Remarquons-le, de ce champ d'action, Freud avait exclu celui de la psychose. Lacan a bien écrit « Question préliminaire à tout traitement possible de la psychose ». Il a mis en relief son mécanisme, celui d'une forclusion du signifiant du nom du père. Mais où en sommes-nous maintenant par rapport à ce champ de la folie? La psychanalyse rencontre-t-elle là sa limite? Je ne sais pas pour ma part répondre à cette question, je la laisse donc en suspens.